Session de philosophie sur la contemplation à Rimont par le père Marie-Dominique Gouthière et le père Philippe, le 23 mai 1998, première conférence.
Je regarde rapidement quelques questions, mais on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais pas peut-être m'y attarder trop. Hein. Alors peut-être là, oui, il y a des questions de vocabulaire. C'est peut-être, il y aurait peut-être, je ne sais pas si cet après-midi il y aurait prévu un genre de carrefour, non? Oui. Donc les questions vertu, habitus, tout ça, c'est peut-être, hein, vous pourrez les poser à ce moment-là, peut-être. Hein, c'est pas très difficile. Là, il y a une question peut-être plus importante que je note, enfin que je lis rapidement. Surtout, j'y réponds rapidement pour donner au moins un axe. Dieu est créateur, Dieu est contemplatif. Or, la sagesse n'est pas une connaissance réalisatrice. Comment création et contemplation peuvent-elles être simultanées? Ça, c'est une question importante, mais ça demanderait beaucoup de développement. Vous voyez, c'est première chose que je souligne. Hein, c'est une affirmation de saint Thomas qui, à mon avis, très très importante à noter. Quand il dit que l'homme est plus à l'image de Dieu en contemplant Dieu qu'en étant créateur comme Dieu. Ça, c'est très important. Parce que vous voyez, la tendance aujourd'hui serait peut-être juste l'inverse. Et puis surtout, n'imaginez pas l'acte créateur comme un devenir artistique. Ça, c'est la vision platonicienne, hein, qui voit la création comme un démiurge façonnant une matière, hein, dans le dialogue du Timée. Dans Timée, Platon montre ça comme ça. Alors certes, l'analogie de l'artiste est intéressante pour aborder le mystère de l'acte créateur de Dieu, mais Dieu ne crée pas comme un artiste fait son œuvre, parce que Dieu ne coopère pas avec une matière. C'est pour ça que saint Thomas souligne que la création n'est pas un devenir, c'est autre chose. Alors là, il y a des choses qui touchent un peu les rapports entre sagesse philosophique, sagesse chrétienne. J'y irai peut-être à la dernière heure, hein, en fin de matinée, puisque je voudrais qu'on lise tout à l'heure un petit peu saint Thomas. Je vais aborder tout de suite des textes d'Aristote, parce que sinon on n'aura pas le temps de les lire, et puis en dernière heure, donc je montrerai un petit peu là ce que saint Thomas peut nous apporter et qu'est-ce que ça peut éclairer pour nous. Alors, je voudrais qu'on lise d'abord dans l'Éthique à Nicomaque un texte très important qui se trouve tout à fait à la fin, au livre 10, hein, et qui est justement sur la contemplation telle qu'Aristote en parle, comme du bonheur ultime de l'homme. Alors, premier aspect, hein, c'est il y a deux grandes choses qu'il faudrait regarder. Ce premier aspect, c'est la contemplation vue dans cet ouvrage qui est l'Éthique à Nicomaque comme étant le bonheur ultime de l'homme. Alors là, il y a plusieurs choses qui sont importantes à bien voir. Et puis, si on a le temps, on regardera aussi un petit peu un ou deux textes de la métaphysique au livre Lambda, où Aristote nous montre que l'objet de la contemplation, celui que nous contemplons, c'est Dieu. Et Aristote essaye de préciser ce qu'il y a de propre au mystère de Dieu. Donc on ira un petit peu, dans un deuxième temps, ces textes si on a un peu le temps. Je voudrais surtout regarder ça, hein, la contemplation comme Aristote la regarde par rapport à l'homme, la théoria. Donc ça se trouve dans l'Éthique à Nicomaque, livre 10, chapitre 7. Alors, si j'avais le temps aussi, je vous montrerai un petit peu, je vous situerai ce texte par rapport à l'ensemble de l'éthique. Hein. J'ai pas le temps, en tout cas, je pense pour pas mal d'entre vous, c'est présupposé, enfin c'est connu. Hein. Donc, dans l'éthique à Nicomaque, Aristote cherche à étudier le bonheur de l'homme et l'activité volontaire de l'homme. Donc, ce qui est au cœur de l'éthique à Nicomaque, c'est le problème de la découverte de la finalité. Pour Aristote, et je crois que ça très intéressant à creuser. Pour Aristote, l'homme est fait pour le bonheur. Je dirais que ça fait partie pour lui presque des traditions. Et il y a quelque chose d'analogue à faire, un parallélisme intéressant à faire. Mais de même que les Grecs, les philosophes grecs, hein, de l'Antiquité grecque, ne se sont jamais posé la question de l'existence de Dieu. Jamais. Hein, parce que pour eux, j'allais dire, ils sont dans un contexte de tradition religieuse. Donc le fait de savoir si Dieu existe, j'allais dire, n'est pas une question. Leur question est beaucoup plus celle-ci. Ce que les traditions religieuses disent au sujet des dieux ou de Dieu, hein, le premier grec qui dit que Dieu est unique, c'est Xénophane de Colophon, au 5e siècle. Bon. Les traditions religieuses, ce qu'elles disent des dieux ou de Dieu, est-il vrai? Ou bien s'agit-il d'un mythe? Et c'est comme ça que les Grecs ont posé le problème. Ils ne se sont pas demandé est-ce que Dieu existe? Mais ce que les traditions religieuses disent des dieux ou de Dieu, est-il vrai? Donc vous voyez, ils philosophent à partir d'un contexte de tradition religieuse. Ce qui n'est pas du tout notre cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un contexte, au contraire, où la philosophie est parvenue à dire que Dieu n'existe pas. Enfin, la philosophie, les idéologies athées. On est dans ce contexte-là aujourd'hui, pas du tout dans un contexte de tradition. Et par conséquent, la question n'est pas la même pour nous. La question, je pense que le père Philippe y insistera avec vous, la question pour nous aujourd'hui, il y a une question capitale. Pouvons-nous affirmer qu'il existe un être premier qu'on appelle Dieu? La question de l'existence de Dieu est quelque chose de beaucoup plus radical aujourd'hui qu'à l'époque d'Aristote. Parce qu'on philosophe dans un autre contexte. Alors, de manière analogue, hein, quand il s'agit du bonheur de l'homme, pour Aristote, l'homme est fait pour un bonheur. J'allais dire, pour lui, c'est presque un donné. Et je crois que c'est un donné qui vient des traditions religieuses. Alors, son effort philosophique, c'est de dire de quelle manière l'homme peut-il parvenir à ce bonheur pour lequel il est fait. Il a cette affirmation au début de l'éthique à Nicomaque. Il dit, tous les hommes sont d'accord pour dire qu'ils cherchent le bonheur. Aristote dit ça. Je crois qu'on ne dirait pas du tout ça aujourd'hui. Oui, il est dans un contexte de tradition, et même d'éthique humaine, vous voyez, j'allais dire presque de coutume, où tous les hommes s'accordent à dire qu'on cherche le bonheur. Alors il dit, mais qu'est-ce que la philosophie peut apporter à cette réflexion? Et son apport propre, c'est ceci, l'homme n'atteint son bonheur que quand il découvre ce pourquoi il vit, sa fin. Et donc, de la même façon qu'en métaphysique, il vient corriger les traditions religieuses en apportant une vérité sur Dieu qui soit une vérité philosophique, de la même façon, il purifie l'éthique humaine, les traditions, les coutumes, par une réflexion philosophique, et cet apport de la philosophie pour lui, c'est la découverte philosophique d'un bien qui soit la fin de l'homme. Et c'est pour ça que je vous ai dit hier, c'est en ce sens que pour lui, l'éthique est vraiment une science. Je cherche ce par quoi l'homme, comme homme, peut être heureux. Et c'est pour ça qu'Aristote dit que ça ne dépend pas des coutumes, ça ne dépend pas uniquement des coutumes, des lois, des cultures, etc. Il dit, oui, certains, et là il cite les sophistes, pour certains, le bonheur n'est qu'une convention. Et Aristote refuse cela catégoriquement. Tout homme, en tant qu'homme, est capable d'être heureux le jour où il découvre sa fin, ce pourquoi il est fait. Un bien humain qui soit sa fin. Alors, ça, c'est la première chose à bien noter. Hein. Parce qu'on va le retrouver dans le texte que je vais vous lire tout de suite. Il ne faut pas oublier cette recherche philosophique. L'interrogation philosophique d'Aristote en éthique, c'est de se demander quelle est la fin de l'homme. C'est pas... Hein, vous voyez, et pour lui, ce ne sera pas une chose simplement individuelle, vous voyez, d'une espèce de sincérité parfaite. Non, il cherche à se demander quelle est la fin de l'homme comme homme, donc de tout homme. Ce qui permet de parler d'un bonheur humain qui s'adresse à tout homme. Et là, on est vraiment en philosophie. Je vous signale cette question, pour moi, elle est très actuelle, hein, parce que c'est des choses qu'on retrouve aujourd'hui de manière extrêmement brûlante, notamment par rapport à des questions qui touchent des lois. Et sur quoi peut se fonder une éthique humaine? Parce qu'on n'est plus dans un contexte du tout religieux. Sur quoi se fonder? Alors certains disent aujourd'hui, c'est sur la science. Est-ce que vous avez le droit de dire ça? Oui, c'est une question que je pose en passant. Alors, aujourd'hui, c'est pareil, mais de même que je viens de vous dire, par rapport à la découverte de Dieu, les traditions religieuses pour les Grecs, la vérité sur les dieux, et aujourd'hui c'est un autre contexte, eh bien dans l'éthique c'est la même chose. Kant tourne en ridicule cette position d'Aristote. Et il dit, dire que l'homme est fait pour le bonheur, c'est complètement naïf, dit-il, parce que l'homme est radicalement mauvais. Et c'est vrai, dans le contexte d'aujourd'hui, dire que l'homme est fait pour le bonheur, ça ne va pas de soi pour tout homme. Parce qu'on est confronté au problème du mal de manière beaucoup plus, je dirais, visible et consciente que dans la position d'Aristote, parce qu'on est dans une culture qui a été chrétienne et qui a mis en lumière de manière très forte le problème du péché originel. Donc, la grande tentation de beaucoup d'hommes d'aujourd'hui, c'est de dire que l'homme est mauvais, l'existentialisme a mis ça très très en lumière. Sartre dit, hein, l'homme n'est qu'un acheminement vers la mort. Heidegger dit, l'homme se définit par l'angoisse. Et donc, le problème du mal et de la souffrance est mis tellement en lumière aujourd'hui que c'est très... Il faut avoir un drôle de culot pour dire, l'homme est fait pour le bonheur comme un a priori. Parce que beaucoup d'hommes vous diront que c'est pas vrai, ça. Et c'est pour ça que on ne peut plus partir en éthique de cette affirmation, l'homme est fait pour le bonheur. Deuxièmement, comment l'atteint-il? Par sa finalité. Donc il faut montrer à l'homme de manière beaucoup plus vigoureuse, hein, dans quelle expérience humaine que vous faites, touchez-vous quelque chose qui vous fasse expérimenter un bien qui soit votre fin. Oui, c'est beaucoup plus concret. De même façon que par rapport à Dieu, il faut poser de manière beaucoup plus nette la question de son existence, parce que beaucoup d'hommes la remettent en cause. Ce qui n'était pas le cas chez les Grecs. Oui. Chez les Grecs, l'athéisme était une exception. Quelques sophistes se sont dit athées, et ils ont été condamnés par des lois. Aujourd'hui, être athée, ça fait plutôt bien, voyez, dans le contexte philosophique habituel. Oui, c'est tout à fait une nuance différente. Alors, je rappelle ça comme un préambule pour ce texte que je vais vous lire dans l'Éthique à Nicomaque, hein, qui est où Aristote va dire, concrètement, cette fin par laquelle l'homme peut atteindre le bonheur consiste dans cette activité contemplative. Mais pour lui, c'est une fin ultime. Il a, et je termine avec cette introduction par rapport à ça, il a dit dans le livre 8 et 9 qui précède, que dans l'amitié, dans la philia, donc la théoria, c'est l'activité contemplative, la philia, c'est l'amitié qui implique un choix libre et réciproque de deux personnes humaines l'une envers l'autre. Dans cette philia, il y a pour Aristote un certain bonheur humain premier qui finalise toute l'activité vertueuse et notamment la prudence. Il le souligne en commençant le livre 8. Et il ira jusqu'à dire que dans l'amitié, il y a une communauté de vie, une koinonia, qui, quand elle touche ce qu'il y a d'essentiel dans la personne humaine, fait comprendre ce que l'amitié est de plus profond. C'est pour ça qu'il dira, que Aristote va jusqu'à dire que l'amitié la plus grande qui puisse exister, c'est celle de deux personnes humaines qui cherchent ensemble la vérité et la contemplation. Alors, j'aborde donc ce chapitre 7, où Aristote va commencer par nous donner, et c'est au point de départ très descriptif, six caractères qui appartiennent à la contemplation et qui font pour lui que la contemplation peut être le véritable bonheur de l'homme. Oui, c'est première partie de ce chapitre, c'est un regard descriptif. Qu'est-ce qui est caractéristique de l'activité contemplative? Quelles sont ses notes dominantes? Alors il commence par rappeler ce que je viens de vous dire. Mais si le bonheur est une activité selon la vertu. Alors, faites attention encore au mot vertu. Arrêter, en grec. Ah oui, vertu, ça va pas très bien. Arrêter, en grec, c'est l'excellence. C'est plus large que le terme vertu dans le français d'aujourd'hui. Si le bonheur est une activité, j'ai presque envie de dire, vous voyez, selon l'excellence. Parce que le bonheur implique l'épanouissement de ce qui dans l'homme est le plus humain. Ce n'est pas quelque chose qui est du côté de la puissance, de la potentialité. Le bonheur est quelque chose d'ultime. C'est un épanouissement, une plénitude. Donc, si le bonheur est une activité selon l'excellence, on pourrait dire selon l'excellence humaine, l'animal n'est pas heureux, au sens philosophique du terme, même si on lui donne un os. Mais si le bonheur est une activité selon l'excellence humaine, il est conforme à la vérité qu'il soit une activité selon l'excellence la plus haute. Et celle-ci sera la vertu, l'excellence, de la partie la meilleure de nous-mêmes. Oui, donc, le bonheur est une activité qui implique une excellence, une qualité, une perfection. Et pas n'importe laquelle, la perfection de ce qui en nous est le plus élevé, donc le plus humain, hein, parce que le plus spirituel. Ce qui en l'homme n'est pas épanoui pleinement du côté de, sa, de son âme spirituelle, fait qu'il n'est pas complètement humain. Hein. Vous voyez, ça fait référence à ce que je vous ai dit hier, qu'Aristote dit cette chose toute simple, hein, ce qui est commun à l'homme et à l'animal n'est pas proprement humain. Donc l'épanouissement dans l'homme de ce qui en lui n'est pas proprement humain, ne peut pas lui donner un bonheur parfaitement humain. Et si toute ma vie est finalisée uniquement par la vie sensible, la boisson, ça ne peut pas me donner un bonheur parfaitement humain. Donc, vous voyez, c'est l'excellence de la partie la meilleure de nous-mêmes. Hein. Tout aristou, hein, aristone, hein, le meilleur. Que ce soit donc l'intellect, l'intelligence, ou toute autre faculté qui est regardée comme possédant par nature le commandement et la direction, et comme ayant la connaissance des réalités belles et divines, qu'au surplus, cet élément soit lui-même divin, ou seulement la partie la plus divine de nous-mêmes, c'est l'acte de cette partie, selon la vertu, l'excellence qui lui est propre, qui sera le bonheur parfait. Or, que cette activité soit contemplative, c'est ce que nous avons déjà dit. Donc, vous voyez, si on dit le bonheur est une activité dans l'homme de ce qui est le plus humain en lui. Et Aristote va jusqu'à dire, ce qui est le plus humain, c'est aussi en lui ce qui est le plus divin. Parce que c'est ce qui est le plus spirituel. Le divin au sens de ce qu'on a vu hier, ce qui a pour objet la connaissance des choses divines. Donc, ça c'est d'abord l'intelligence. Ah oui, là je souligne un point qui est une question qui est à soulever, que je ne vais pas forcément beaucoup développer, mais qui me semble importante. Aristote, comme dans toute sa philosophie, dit que les degrés de vie se prennent toujours du côté de la connaissance. Il met donc toujours en lumière l'intelligence. Alors la question qui est toujours pendante, qu'Aristote ne traite jamais ou très peu, c'est quel est le rôle de l'amour ? Puisque notre âme spirituelle implique deux puissances spirituelles, l'intelligence, capacité de connaître la vérité, et puis la volonté, capacité d'aimer d'un amour spirituel. La volonté, la boulessis grecque, c'est la capacité d'aimer, d'un amour spirituel, c'est-à-dire d'un amour volontaire, qui porte sur la personne de l'autre et qui veut le bien de l'autre que j'aime. C'est-à-dire que la passion, c'est un amour sensible, qui a pour objet un bien sensible. Et donc qui est avant tout pour moi. Ah oui, ça c'est très important à bien saisir. Aristote précise très très peu ce rapport de l'intelligence et de la volonté. Il dit quand même, dans la métaphysique au livre lambda, que Dieu, parce qu'il est premier, est le premier intelligible, donc la vérité première, et le premier aimable. Dieu, parce qu'il est premier, il est le bien premier qui suscite l'amour le plus radical de ma volonté, et la vérité première qui suscite l'acte d'intelligence le plus ultime que je puisse poser. Oui. Chercher la vérité, ça implique de chercher à connaître la vérité la plus ultime, la vérité première qui dépasse toutes les vérités. Chercher à aimer, ça implique de chercher à aimer le bien premier, source de toute autre bonté. C'est pour ça que je peux dire tout à fait comme philosophe cette phrase que dit Saint Jean, « Tout amour vient de Dieu ». C'est parfaitement vrai philosophiquement. Parce que toute bonté, c'est le bien qui suscite l'amour. Toute bonté d'une réalité existante autre que Dieu est participée, reçue de la bonté première qui est Dieu lui-même. En Dieu, la bonté est substantielle. Ah oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas l'oublier. Aristote parle ici comme philosophe. Je n'ai pas le temps de développer ça, oui, mais pour lui, la structure de la personne humaine, se prend du côté de la connaissance. Et c'est très important à noter. Ce n'est jamais notre affectivité qui nous structure. C'est l'intelligence. C'est la connaissance. C'est pour ça que, pour que l'amour en nous s'ordonne, il est nécessaire que l'intelligence soit au service de l'amour. Alors vous voyez, Aristote, qui parle toujours de manière très précise, hein, c'est-à-dire formellement, hein, dit toujours, prend toujours les choses du point de vue de la connaissance. Mais il ne faut pas oublier que pour lui, ça implique aussi le point de vue de l'amour, bien qu'il ne le dise pas explicitement. Il le dit dans certains lieux qui montrent que, on voit bien que pour lui, ça fait partie, hein, de la réalité. Quand il dit Dieu est le premier intelligible et premier aimable, ce serait important à creuser comme question, hein, il ne le dit pas. Ça veut donc dire que pour lui, la contemplation implique aussi un amour. Mais c'est premièrement un regard, une connaissance de Dieu. Ça implique un amour qui est l'amour d'adoration. Hein. Mais ça, je vous ai dit que c'était une question importante et j'espère que le Père Philippe le développera avec vous, hein, parce que c'est un point extrêmement important en philosophie, le rapport entre l'adoration et la contemplation, hein, qui est un point en plus extrêmement actuel dans la recherche de certains philosophes d'aujourd'hui, hein, par exemple comme Lévinas. Donc vous voyez, hein, pour lui, le bonheur de l'homme ne peut être que l'acte, selon la vertu la plus parfaite, de la partie la plus élevée, la meilleure de nous-mêmes, notre âme spirituelle, hein, donc notre intelligence et notre volonté. Donc vous voyez, je vous pose une question qui me semble importante. Est-ce que l'intelligence et la volonté peuvent être complètement dans leur finalité, s'épanouir d'une manière plénière dans la connaissance et dans l'amour d'une réalité imparfaite du point de vue de l'être? Même si cette réalité imparfaite du point de vue de l'être est pour moi très importante, par exemple l'ami. Mais est-ce que l'intelligence de l'homme peut être totalement épanouie en acte dans la connaissance de l'homme? Est-ce que ma capacité d'aimer d'un amour spirituel peut être totalement épanouie par l'amour d'une personne humaine? Oui, c'est le grand problème d'un rapport entre amitié et contemplation. Bien, oui, c'est très facile d'y répondre. Jamais une personne humaine, même l'ami le plus proche, ou la personne que j'aime la plus proche, ne peut être pleinement la mesure de mon intelligence. Parce qu'aucune personne humaine n'est la vérité. Et c'est très important à rappeler, ça, oui. Je ne peux jamais dire à quelqu'un au nom de l'amitié, ce que je pense est la mesure de ton intelligence et de ta vérité. Je ne peux jamais dire ça. Et je ne peux jamais dire à quelqu'un que c'est ce que je pense qui est la mesure de son intelligence. Son intelligence est faite pour ce qui est. Elle ne peut donc s'arrêter, hein, trouver son repos, que dans la connaissance de ce qui est premier, de la réalité existante, première, la plus parfaite, dont dépendent toutes les autres réalités existantes. C'est pour ça qu'au sens tout à fait précis, l'appétit de vérité de l'intelligence ne peut être satisfait qu'en découvrant Dieu, qui est la vérité première. Aucun homme, même le sage le plus élevé, ne peut être complètement la mesure de mon intelligence. C'est pour ça qu'un maître en philosophie est toujours quelqu'un qui nous conduit dans la pauvreté, parce qu'il nous renvoie à la réalité. Et c'est le signe d'un véritable maître en philosophie. C'est-à-dire qu'un faux maître, c'est quelqu'un qui a un système dans lequel il nous enferme. Ça devient une idéologie. Et alors on devient esclave d'un système. Ça explique tellement de choses, vous voyez, quand on voit certains dits philosophes, hein, qui sont dans un système dont ils ne sortent pas, c'est un carcan. Au contraire, un maître en philosophie nous libère parce qu'il s'efface devant la réalité. Et la réalité définitive, c'est Dieu, qui est en fait le maître ultime de notre intelligence. Et là, il y a quelque chose de très important à saisir. De la même façon, du point de vue de l'amour. Jamais aucune personne humaine ne peut combler complètement ma capacité d'aimer. Elle la comble, bien sûr, hein, en premier, mais jamais jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas première dans l'ordre de l'être. Et l'ami peut mourir. Donc ça me montre que l'amour d'amitié a quelque chose qui demeure intentionnel. Et il y a quelque chose de très important là, vous voyez, hein, c'est comme ça que le Père Philippe a terminé avec vous le premier cours qu'il vous a fait. Hein. Il vous a dit, premier épanouissement de l'homme, l'amitié. Mais l'ami est-il un absolu ou exige-t-il que l'on découvre un être plus ultime, dont il dépend dans son être. Et c'est très important, parce que c'est ça qui permet que l'amitié garde sa vérité. Si j'aime une autre personne humaine en faisant la mesure de la vérité et l'amour absolu, le bien absolu, l'ami devient l'idole, ce qui remplace Dieu. Or, ça n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que l'ami n'est pas cause d'être pour moi. Je n'existe pas par lui. Je n'existe que par Dieu. C'est pour ça que l'adoration est tellement importante. Parce que c'est l'adoration qui maintient le véritable sens de la recherche contemplative au-delà de l'amitié. Je ne peux pas adorer l'ami. Pourquoi ? Je ne dépends pas de la personne de l'ami dans mon être. Donc j'ai une autonomie souveraine dans l'ordre de l'être. Tandis qu'à l'égard de Dieu, il est celui que j'adore parce que je dépends actuellement de lui. Dans mon être, je n'existe que par lui. C'est pour ça que je vous ai dit, d'où l'importance de la découverte philosophique de l'existence de Dieu créateur pour comprendre ce que c'est que la contemplation. Il y a là un point extrêmement important. Alors, une fois que cette affirmation est donnée par Aristote, donc il va donner six caractères pour lesquels la contemplation est quelque chose d'ultime pour l'homme. Donc, que cette activité de l'esprit ultime soit théorétique, contemplative, c'est ce que nous avons déjà dit. Cette dernière affirmation paraîtra s'accorder tant avec nos précédentes conclusions qu'avec la vérité. En effet, en premier lieu, cette activité est la plus haute, la plus élevée, puisque l'intelligence est la meilleure partie de nous-mêmes et qu'aussi les objets sur lesquels porte l'intelligence sont les plus hauts de tous les objets connaissables. Donc, premier caractère de l'activité contemplative, c'est l'activité la plus élevée. Pour deux raisons. Parce qu'elle est l'acte de l'intelligence qui en nous est ce qui est le plus noble, et parce qu'elle a pour objet la réalité première, la plus élevée. Vous voyez, c'est plus... Donc autrement dit, on touche ici l'élévation, donc aussi l'excellence. Mais c'est l'élévation, vous voyez, l'élévation de la connaissance contemplative. Vous voyez, c'est plus élevé de connaître Dieu que de connaître un chien, même un labrador très particulier. Mais le prix d'excellence pour le chien, ça va pas très loin. Oui. C'est l'excellence de la contemplation. C'est très intéressant. Oui, ça n'a l'air de rien. Oui, mais dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si mon intelligence ne fréquente qu'un labrador, elle a progressivement la taille du labrador. C'est très intéressant, à creuser. C'est pour ça que c'est très curieux, ça vous fait comprendre pourquoi il y a des savants qui restent dans des connaissances de choses matérielles de l'univers, qui peuvent être très intelligents et qui sont en même temps complètement matérialistes. Parce que si je ne connais que des choses matérielles, mais et que je dis qu'il n'y a que la matière qui existe, mon intelligence se matérialise. Je deviens au niveau de la matière. Et donc là, on touche quelque chose de très très intéressant, le rapport entre la contemplation et, j'allais dire, un ordre de noblesse dans les réalités existantes. Et tout de suite, on est au niveau de la sagesse, voyez. C'est plus noble de connaître l'être le plus élevé que de connaître un être moins élevé, moins grand. Et encore, grandeur, ça ne va pas, parce que la grandeur, c'est la quantité. L'élévation, c'est la noblesse. C'est tout de suite aussi lié, bien sûr, à l'aspect de la finalité. Qu'est-ce qui est le plus noble ? C'est ce qui est le plus en acte. Et c'est ce qui est esprit. Deuxième caractère. Ensuite, elle est la plus continue. Car nous sommes capables de nous livrer à la contemplation d'une manière plus continue qu'en accomplissant n'importe quelle action. Deuxième aspect, la continuité. Donc ça, c'est lié à l'aspect de la durée. Pourquoi ? Parce que la contemplation étant un acte spirituel n'est pas liée à la fatigue du corps, au sens strict, du moins pas directement. Et tandis que je ne peux pas travailler de manière continue pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. La contemplation est plus libre du conditionnement qu'une activité de réalisation. L'aspect de la continuité. Troisième caractère. Nous pensons encore que du plaisir doit être mélangé au bonheur. Or, l'activité selon la sagesse est tout le monde le reconnaît, la plus plaisante, et tout le monde le reconnaît, hein, il manque pas de toupet, hein. Parce que c'est tellement difficile, on lui dit, oui, bon, très bien, mon cher Aristote, vous avez l'expérience de la contemplation philosophique, nous, on est des piou-piou qui courent derrière, oui, on veut bien croire, mais tout le monde le reconnaît, il est gonflé, enfin bref. L'activité selon la sagesse, c'est tout le monde le reconnaît, la plus plaisante des activités conformes à la vertu. De toute façon, le jour où vous serez d'accord avec ça, c'est-à-dire que vous deviendrez vraiment philosophe. Hein. De toute façon, on admet que la philosophie renferme de merveilleux plaisirs, sous le rapport de la pureté et de la stabilité. Et il est normal, alors ça c'est très beau, il est normal que la joie de connaître soit plus agréable que la recherche du savoir. La joie de connaître. Et quand je cherche, c'est pour connaître. Et donc quand je connais, je trouve la joie. Vous voyez, c'est très très beau ça. Hein, l'aspect de la joie, du plaisir que nous donne la contemplation. Ah oui, c'est intéressant parce que ça nous montre aussi un aspect du côté de la finalité. Hein. La recherche de la vérité, elle est ordonnée à la découverte de la vérité. Et la découverte parfaite de la vérité, c'est la contemplation. Et ça, je vous ai cité ça hier, c'est une chose que Saint Augustin dit à sa manière quand il dit que contempler, la contemplation,